Bonsoir. Nomination depuis mercredi dernier de Matata Ponyo au poste de Premier ministre. Au cours d'un point de presse animé hier à Kinshasa, le nouveau Premier ministre a tracé les priorités de son futur gouvernement. Il promet de se battre pour matérialiser la révolution de la modernité et précise que les actions de son gouvernement vont se focaliser sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Levée de la grève des médecins du secteur public en République démocratique du Congo. Après deux semaines de grève décrétée par les syndicats des médecins du Congo dans les hôpitaux publics, les blouses blanches ont de nouveau repris ces jeudis avec les services. Cela après l'annonce mercredi soir de la suspension de ces mouvements par le secrétaire général du SINAMED. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Quoi, confrères journalistes, participent à ce débat. Il s'agit de Benoît Kambéré, il est rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région de Grand Lac, qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Benoît Kambéré.
Bien le bonsoir, Guy Maté.
Marcel Ngoï, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît aussi ici à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir Guy Maté.
Et Jean-Baptiste Badera, directeur de Canal Future Télévision Sud Kivu. Bonsoir Jean-Baptiste Badera.
Bonsoir Guy Maté.
Augustin Matata Ponyo, nommé Premier ministre, levé de la grève des médecins par le SINAMED. Écoutons cette revue de presse que nous présente Kéline Couté pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la nomination de Matata Ponyo comme premier ministre de la RDC. Et c'est l'Observateur qui ouvre le bal en titrant choix judicieux du président de la République, Matata Ponyo Maponde, premier ministre. Le journal rapporte que le président de la République, Joseph Kabila, vient de mettre fin à cette longue attente aux supputations qui ont prévalu quant à la désignation du premier ministre qui devra conduire le gouvernement de la RDC au cours de cette seconde législature. Information que confirme la Prospérité qui souligne originaire du Maniema et cadre du PPRD, Matata Ponyo est très introduit dans les milieux de la haute finance internationale. Pour certains analystes, note la Consoeur, la croissance et la trésorerie représentent aux yeux des bailleurs des fonds deux meilleurs instruments de gestion qui leur permettent de mesurer les capacités managériales d'un gestionnaire en termes de création des richesses nouvelles. Et Matata Ponyo estime ceci et cet homme ressource qui, grâce à son leadership, a réalisé des performances extraordinaires avec les régies financières rapporte la Prospérité. Fini le suspense, un technocrate à la primature, Matata Ponyo, c'est la une du journal Le Potentiel. L'oiseau rare est connu, selon le confrère. Fin technocrate, sorti de la moule de la Banque Centrale du Congo, Matata Ponyo a la charge d'imprimer un nouvel élan à la révolution de la modernité, prônée par le chef de l'État. Une tâche difficile, mais pas impossible, conclut le journal. Changeons de chapitre pour parler de la levée de la grève des médecins. Au quotidien, l'avenir de titré dans l'intérêt de la corporation. SINAMED, ville de Kinshasa, en appelle à la surséance de la grève. Par ailleurs, poursuit le journal, le SINAMED demande à toutes les institutions de la RDC, spécialement au président de la République, de prendre toutes les mesures utiles pour l'application effective des accords, seule façon pour eux de mettre fin à cette spirale des grèves dont la population innocente est la plus grande victime. Autre sujet qui ont fait l'actualité cette semaine, c'est la clôture de l'atelier d'évaluation de la CENI, la sortie de la nouvelle plateforme politique dénommée Majorité Présidentielle Populaire MPP en sigle qui soutient Étienne Tshisekedi, ainsi que les mécanismes mis en place par la DGI et la DGDA pour lutter contre la fraude fiscale en RDC.
Merci Kéline. Écoutez, un petit commentaire par rapport à cette revue de presse. Benoît Kambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la clôture de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral. Et à cette occasion, le président de la CENI a annoncé pour janvier 2013 la tenue des élections provinciales, urbaines, municipales et locales.
La tenue probable des élections municipales et locales. Peut-être avec une autre équipe. C'est une parenthèse que je referme. Effectivement, l'auto-évaluation qui a trop traîné, n'est-ce pas, qu'on attendait un mois après les opérations électorales, a finalement eu lieu après toutes les critiques de toutes les missions d'observation tant nationales qu'internationales. Enfin, presque poussée par le dos, la CENI s'est auto-évaluée. On a malheureusement entendu des autosatisfactions. On n'a pas tiré les leçons de tout ce qui s'est passé parce que c'est bien de dire que on va améliorer, mais il faut reconnaître qu'on a fait du tort, et quand on a fait du tort, on fait son mea culpa, et au besoin, on peut tirer les conséquences de tous les torts et de toutes les irrégularités, parce que c'est les termes qu'ils affectionnent tant, qui ont été faites.
Et vous pensez que tout cela n'a pas été fait ?
Pas à mon sens comme il se devait. S'auto-évaluer, ce n'est pas promettre qu'on va mieux faire, c'est accepter aussi qu'on a très mal fait.
Marcel Ngoï, vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est les nouvelles mesures prises par la DGI et la DGA dans la lutte contre la fraude fiscale. C'est notamment l'échange des informations entre les deux régies financières.
Oui, mais meilleure mesure, parce que il fallait pas l'annoncer seulement hier, ou avant-hier, ou il y a deux jours. C'est depuis que les deux instituts existent qu'il faut instituer les mécanismes d'interaction, d'interconnexion. Parce que ces deux régies fonctionnent pour la mobilisation, la maximisation de recettes dont le pays a besoin. Donc il ne fallait pas attendre un peu plus longtemps, après qu'on ait lancé la TVA avec toute la campagne qui l'a entourée, pour aujourd'hui dire qu'il y a des mesures qui viennent d'être prises. Moi je crois qu'il faut plutôt parler de renforcement des capacités, du renforcement des mécanismes de contrôle, et puis même de la sanction, parce qu'il n'y a pas meilleure mesure que la sanction. Ici au pays, nous avons tous les jours déploré ce qu'on appelle l'impunité. On peut prendre tout un chapelet de mesures tant qu'on ne punira pas, tant qu'on ne sanctionnera pas, tant qu'on n'identifiera pas des mafieux et on les présente publiquement devant les Congolais, eh bien, ou bien devant les tribunaux pour les juger. Donc, les mesures, on peut faire des tonnes et des tonnes de mesures. Et je vous dis que ce n'est pas ça qui manque au pays.
Merci Jean-Baptiste Badera, directeur de Canal Future Télévision Sud Kivu. Qu'est-ce qui domine l'actualité à Bukavu?
L'actualité au sud qui vous est dominée par la récupération des maisons de l'État par le parquet de Bukavu et la population dénoncée par différentes associations de défense des droits humains au sud qui vous, notamment les Repodoc, qui estiment que beaucoup de propriétaires de ces maisons de l'État les ont acquis en bonne et due forme, et ce réseau de défense des droits de l'homme ne comprend pas pourquoi on peut mener pareille opération en dehors de tout respect des droits de l'homme. Cela donc le Repodoc, selon le procureur général ici à Bukavu, c'est une mesure qui doit continuer, une opération qui devrait continuer, et on doit tenir compte des documents que détiennent les différents propriétaires de ces maisons pour savoir qui sera donc sauvé dans cette opération et qui sera condamné. De certaines maisons, au moins 4 ont déjà été récupérées par le parquet général.
Merci. Avant d'aborder notre premier thème, nous allons commenter cette triste nouvelle. Comme vous le savez, Théo Boniface Kayungi Beya s'est éteint lundi dernier à l'âge de 74 ans au Canada, où il vivait depuis une dizaine d'années. Engagé à la radio nationale en 1959, il est l'un des pionniers de la télévision nationale congolaise lors de l'inauguration en 1966. Il a créé vers les années 70 des émissions telles que Libala et Abusembo, Variété samedi soir et samedi chaud. Benoît Kambéré, un témoignage par rapport à celui que Kibambi Nshitwa appelle virtuose de la radio et télévision, qui vient de nous quitter.
Absolument. Théo Boniface, comme nous l'appelions étant jeune affectueusement, parce que le nom de Kayumbi Béa est venu juste après l'authenticité, parce que c'est Théo Boniface, celui que nous écoutions quand la RTNC à l'époque était le grand tam-tam d'Afrique. De Bukavu, où je me trouvais, c'était avec délectation que nous écoutions Théo Boniface avec un français châtié, un gars qui avait l'humour à fleur de peau, qui parlait très bien, qui s'exprimait, qui avait une jovialité qu'il partageait tant à la radio qu'à la télévision, et qui a fait la belle époque de la télévision nationale congolaise avec le Benoît Lukunku et autres Tiembe, qui nous a quittés aussi malheureusement.
Merci Marcel Ngoï. Un mot par rapport à la disparition de Théo Boniface Kayumbi Beya.
C'est une occasion pour La Prospérité, mon journal, de pouvoir présenter ici les condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Mais c'est aussi une occasion pour moi d'interpeller non pas seulement la classe politique congolaise, mais les médias en général. Vous voyez un peu cet exode des cerveaux. Un Congolais, une sommité, une personne au talent rare, qui quitte le pays et qui va comme ça. C'est loin de la terre de ses ancêtres, à Toronto, loin d'ici. Voilà ce cerveau qui aurait dû se vider sur les Congolais, mais qui est allé se vider ailleurs. Enfin, je crois que ce n'est pas l'unique. Il faut pas seulement attendre quand les gens sont morts pour les glorifier, pour les valoriser. Il faut que quand les gens sont en vie, qu'il y ait toute une politique d'encadrement des cerveaux. Surtout quand vous avez un type d'une telle capacité, d'une telle compétence. Quelqu'un qui a une renommée qu'on pouvait bien utiliser ici pour la modernisation, pour la requalification de l'action de cette télévision nationale.
Jean-Baptiste Badera, quel souvenir vous gardez des Kayumbi Beya?
Bon, ce sont de très bons souvenirs. Hein. J'ai eu à les suivre à la RTNC à l'époque où on était encore trop jeune, hein, au collège Al-Fajiri, à l'école primaire. C'était à l'époque où on voyait vraiment de grands journalistes qui nous ont même donné le goût de faire le métier. On se rappelle qu'il y avait également Kwebe Kiupele, Kibambi Chitwa, Kudura Kasongo même. C'est donc avec grosse tristesse qu'on a accueilli la mort de Théo Boniface. Nos condoléances les plus sincères à toute sa famille.
Merci. Notre premier thème de ce soir, nomination depuis mercredi dernier de Matata Ponyo au poste de Premier ministre. Au cours d'un point de presse animé hier à Kinshasa, le nouveau Premier ministre a tracé les priorités de son futur gouvernement. Il promet de se battre pour matérialiser la révolution de la modernité et précise que les actions de son gouvernement vont se focaliser sur la sécurité à l'est de la RDC. Matata Ponyo trace les priorités de son futur gouvernement. Le tout nouveau Premier ministre les a expliqués au cours d'un point de presse tenu ce jeudi au ministère des Finances ici à Kinshasa. Matata Ponyo promet en effet de se battre pour matérialiser la révolution de la modernité qui doit avoir des impacts positifs sur le social du pays. Les actions de son gouvernement, a dit l'ancien ministre des Finances, vont se focaliser sur la sécurité à l'est de la RDC. Quant à la formation du gouvernement, elle devra se baser sur la compétence et la rigueur dans la gestion des affaires publiques de l'État, a-t-il ajouté. Écoutons le tout nouveau Premier ministre Matata Ponyo dans ses propos recueillis par Askin Zigbia Tayoro.
Le choix du président a été guidé par des valeurs cardinales pour la fondation de la République. Des valeurs tournées vers la consolidation de la paix sociale. Des valeurs tournées vers la consolidation de la sécurité de l'État. L'amélioration du social du peuple congolais. Mais aussi des valeurs qui touchent à l'amélioration de la gouvernance économique. Autant des valeurs sur lesquelles l'action du chef de l'État est fondée, autant nous attacher à ces valeurs cardinales qui fondent le progrès de la nation. Nous voulons donc vous rassurer de notre disponibilité permanente à pouvoir concentrer l'ensemble des efforts pour l'accomplissement de cette mission qui vient de nous être confiée par la haute hiérarchie du pays. D'autant plus que la RDC, comme l'a dit le chef de l'État, qui doit rentrer dans le concert des économies émergentes. Mais l'émergence, c'est le sacrifice, c'est la rigueur, c'est la recherche permanente des résultats.
Benoît Cambert, d'abord par rapport à la nomination de Matata Ponyo au poste de Premier ministre, n'est-ce pas une surprise parce que plusieurs noms étaient cités depuis plusieurs mois dans la presse, sauf les siens?
Ah non, il était cité parmi ces noms-là. Et même que quand l'accident de l'avion de Bukavu est arrivé, déjà, on se disait que comme il était en voyage avec AKM, Augustin Katumba Mwanke, lui-même étant aussi un Augustin, n'est-ce pas, ils étaient en train de concocter le futur gouvernement.
Donc c'est pas une surprise.
Ce n'est pas une surprise. Je l'ai dit devant ce micro la semaine dernière. Ce ne serait pas un autre. J'ai dit que c'était un PPRD qui venait. Et cela ne devait pas nous étonner. Et c'est un PPRD qui est venu. Certes, il n'est pas chef de parti. C'est-à-dire que tous les chefs de parti, certes, il s'est bousculé au portillon. Ce n'est pas un allié. Ça doit être un signal fort dans le camp du chef de l'État. Donc les chefs de parti n'ont qu'à bien se ranger. D'autant plus qu'on les a vus à l'œuvre. Le mandat passé et le résultat n'a pas été très reluisant, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui est du PPRD mais qui n'est pas chef de parti, qui n'est pas un allié, qui est vraiment du PPRD pur sang. Et ça, ça doit faire réfléchir des gens qui se pavanaient et qui, même, ça se dit dans la ville, occasionnaient des articles pour que leur nom soit cité pour influencer le chef de l'État.
Et qu'est-ce que vous avez contre les chefs de parti?
Ben, les chefs de parti, on a vu ce qu'ils ont fait.
Ils n'ont pas été à la tête du gouvernement.
Ils ont démérité en plaçant leurs hommes et en bloquant beaucoup de choses.
Marcel Ngoyi, ce que l'on dit d'Augustin Matata Ponyo, c'est qu'il est plus technocrate que politique. Et une certaine opinion pense que cela constitue un atout. Et cependant, on sait que ce n'est pas la première fois que ce pays connaît un premier ministre technocrate. Pensez-vous qu'il suffit d'être technocrate pour être en mesure de relever les défis?
Pas facile, pas facile, Guy. Tu sais que parmi les éléments, c'est que M. Matata, c'est quelqu'un qui a travaillé à la Banque Centrale, qui a participé à la réforme monétaire à l'époque de Birindwa, qui a participé au lancement du franc congolais ici. C'est quelqu'un qui a dirigé le BCECO, qui a introduit dans le milieu de la haute finance internationale. C'est quelqu'un du Maniema, province d'origine de la maman du président. C'est quelqu'un qui a connu, si on peut parler d'une certaine nostalgie, c'est quelqu'un qui a connu les derniers instants de Katumba Mwanke, un des collaborateurs fidèles du président Kabila. Eh bien, sa nomination peut d'abord résoudre un problème. C'est lui, peut-être, n'avoir pas choisi un politique, un vrai politique rompu dans l'action politique. Non, peut-être que le président s'est dit, au lieu de prendre X, Y, Z, ça pourrait désavantager tel camp par rapport à un autre, et ça mettrait un bémol par rapport à la querelle des familles. C'est possible. Mais moi, je dis qu'au-delà de toutes les faveurs en termes de performance, de capacité technique dont il peut disposer, souvenez-vous que dans tous les mémos adressés à l'informateur nommé par le président de la République, il y avait toujours un mot, le premier ministre doit être un rassembleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier ministre devait être non pas seulement dans ce qui relève de ce qu'on appelle les sciences exactes, mais plutôt quelqu'un aussi qui, d'une manière ou d'une autre, pouvait être capable d'aller vers ce qu'on appelle des conciliabules, des compromis. Un problème de négociation. On le connaît certes comme étant quelqu'un qui est efficace dans les négociations, pour avoir bien sûr passé beaucoup de temps dans les discussions avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la BAD et tout ça. C'est quelqu'un qu'on connaît dans les négociations, dans les discussions. On est dans une période difficile où les bailleurs, les multibailleurs des fonds menacent de rompre en prenant pour prétexte tout ce qu'on a connu comme malformation congénitale du processus électoral. Ils ont voulu saisir cette opportunité où ils sont en train de menacer. Donc sa présence peut effectivement retarder cela, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il puisse relever les défis. Le défi ici, c'est avoir, en plus des atouts techniques, avoir des capacités politiques pour pouvoir non pas seulement rassembler, mais aussi répondre à tout ce qu'il y a comme impératif. Quels sont les impératifs, les défis de ces mandats? C'est le dernier mandat, constitutionnellement parlant, pour le président Kabila. En quoi, lui, au bout d'un temps, peut aider le président à gérer cette fin de la mandature? Quel autre défi? C'est le défi, bien sûr, de la mobilisation des recettes. Pour réaliser la révolution de la modernité, on a besoin de moyens pour pouvoir financer l'exécution des travaux. Parce que depuis qu'on a fini la campagne électorale, vous devez constater à travers la République, je ne vois plus les travaux continuer. C'est comme s'il fallait accélérer les travaux pour pousser les électeurs à se décider, à aller vers les urnes. Au jour d'aujourd'hui, les travaux sont stoppés. Peut-être que avec sa présence, on peut trouver les moyens, mais du côté de tout ce qu'il y a comme défi, quand il parle de la sécurité implique l'armée. Ça implique beaucoup de moyens. Et vous connaissez, nous en avions parlé ici la fois dernière, le problème de l'armée sont complexes. C'est la formation, c'est le recrutement, c'est l'encadrement, c'est la survie. C'est tout ça, c'est l'habillement. Donc ce sont des problèmes complexes. Et je crois que, en même temps qu'on est optimiste, pour ma part, je demeure optimiste. Le choix du président, cette fois-ci, n'a pas été forcément dicté par quelques clientélismes politiques, mais peut-être beaucoup plus porté vers les valeurs, comme il l'a dit lui-même. Mais j'estime que le tout nouveau Premier ministre doit faire mieux par rapport à son prédécesseur, parce que ses défis à lui sont multiples et complexes.
Et Jean-Baptiste Badera, dans son premier point de presse animé hier à Kinshasa, Matata Ponyo promet de se battre pour matérialiser la révolution de la modernité qui doit avoir des impacts positifs sur le social du pays.
Oui, merci beaucoup Guy Baté. J'ai suivi un extrait de ce point de presse du nouveau Premier ministre que je félicite en passant. Je me rappelle du matin qu'en 2010, c'était encore une fois l'année sociale, et l'actuel Premier ministre a été nommé aux finances déjà en février 2010, l'année sociale. On a observé toute l'année, rien n'a été fait, 2011, rien n'a été fait. Maintenant, nous sommes en 2012, comme je l'ai été nommé, j'espère qu'il va être à la hauteur de ses promesses et voir réellement les Congolais jouir de cette année sociale. Je vous ai dit, il y a de cela quelques mois, on était encore dans une autre émission comme celle-ci, quand on a créé ce qu'on a appelé une commission de lutte contre la vie chère. Je vous avais dit que cela devait s'arrêter à la création de cette commission-là, avec deux ministres nationaux. Et alors, quand on dit qu'on va s'appeler pour la révolution de la modernité, d'abord c'est très difficile à dire, à comprendre ou déjà à espérer, quand on sait qu'il y a une tolérance zéro, il y a une aide sociale, patati patata. Donc, on ne sait pas trop préjuger aujourd'hui le Premier ministre actuel. Mais l'essentiel est que dans son speech, il a parlé du fait qu'il va tout faire pour faire avancer la démocratie. Et là, on voit la gouvernance également, avec, par exemple, le respect de la Constitution, parce qu'on a vu que pendant toutes les 5 années, on n'a rien vu par rapport à ça, avec sa venue au niveau de la tête du gouvernement. On va peut-être voir la conférence de gouverneurs se tenir 2 fois chaque année comme cela est prévu. On va peut-être voir, et ça ne sera pas seulement des discours, comme on a vu 5 ans durant, c'était juste 2 conférences, alors que la Constitution prévoit 2 par an, durant 5 ans. Donc je pense qu'avec sa venue comme il est déterminé, on va respecter certaines clauses de la Constitution, les 40% à la source, la commande de gouverneurs, etc. Parce que franchement, il faut dire que les Congolais n'ont plus besoin de beaucoup de discours. J'avais suivi dans l'école des provinces hier à Kindu, c'était la fête après la nomination de Matata Mponyo, fils de la province. Il y avait fête, klaxon, mais à la fin, on a dit que les gens ont fêté, mais ils n'ont plus besoin de gros discours. Au lendemain de sa nomination, vous avez suivi au Sénégal, Macky Sall a prêté seulement le 2 avril dernier. Les 3, il a nommé son premier ministre, et les 4, il a formé son gouvernement. Et quand on écoute ce qui s'est dit dans les différents médias, j'étais dans une station essentielle avec des hauts cadres de la fonction publique, qui justement doutaient et ils se demandaient si réellement le nouveau premier ministre, quoique technocrate, sera à la hauteur, aura tous les moyens de sa politique. Parce que déjà dans sa première interview accordée à Radio France Internationale hier, on a senti qu'il donnait trop de kilos au chef de l'État, ce qui n'est pas mauvais parce que c'est lui qui a eu les derniers mots par rapport à sa nomination. Mais avec tout cela, on risque d'avoir une institution qui a une ascendance des autres institutions, notamment le gouvernement et la primature, ce qui serait une poursuite, ce qu'on a vécu pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler et du matin.
Oui, Benoît Caméré, comme vous venez de le suivre, les attentes sont énormes. Considérable. Et par rapport à cette révolution de la modernité qui n'est qu'une philosophie, une pensée, comment à votre avis peut-on concrètement faire que cette révolution de la modernité puisse impacter sur les sociales du Congolais?
Qu'est-ce que ça veut dire une révolution de la modernité? Mon fils, il avait une dissertation, il m'a posé la question, mais papa, une révolution de la modernité, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas eu de mots à lui dire. Qu'est-ce qu'une révolution de la modernité?
Mais le Premier ministre promet que cela doit avoir un impact sur le social du peuple.
Le social du peuple, c'est les salaires. Le social du peuple, c'est le train-train quotidien. Le transport en commun à Kinshasa et à l'intérieur du pays n'existe pas. Le panier de la ménagère. On ne parle plus du panier de la ménagère.
Et donc, il ne faut pas utiliser des termes savants pour apporter des solutions aux problèmes réels qui se posent.
Absolument. Hier, par exemple, les gens qui connaissent mieux le Premier ministre nommé, Matata Mponyo, ce sont les gens des régies financières, les gens du ministère des Finances. On a posé la question. Il y en a qui ont pleuré.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont des arriérés de salaire. Parce que leurs commissions sont bloquées, étaient bloquées au ministère des Finances.
Mais c'est pas le fait de Matata Mponyo.
C'était le fait de qui, d'après vous?
Il évoluait dans un gouvernement, dans un système. Il n'avait pas le pouvoir de décision.
Maintenant qu'il a le pouvoir de décision, mais écoutez, que Dieu soit loué. On va voir si demain, les gens des régies financières vont sourire. On va voir demain si le panier de la ménagère ne sera plus le sachet de la ménagère. On va voir si demain, le transport en commun va revenir à Kinshasa. On va voir si demain, l'électricité, l'eau sera monnaie courante. Déjà à Kinshasa, si à Kinshasa ça pose problème, c'est par ces actes-là qu'on voudrait le voir et pas par des slogans, j'allais dire, creux.
Marcel Ngoyi, le nouveau Premier ministre, affirme aussi que les actions de son gouvernement vont se focaliser sur la sécurité à l'est de la RDC.
Oui, mais c'est une volonté qu'il exprime dans un moment extrêmement difficile. Vous savez que depuis que la traque a recommencé et puis là, qu'on a interrompu certaines opérations à l'est, le volet sécuritaire devient encore préoccupant. Mais le problème chez moi est que comment un Premier ministre technocrate, avec toutes les capacités qu'on peut lui attribuer, avec tous les carnets d'adresse qu'il peut traîner sur son passage, comment il peut arriver à impulser dans un environnement où la corruption est devenu une tare qui est collée à la peau de Congolais. Comment il va mettre fin au régime des intouchables? Comment lui va bien diriger? Comment Matata Mponyo va faire le miracle dans ce pays, dès lors qu'il y a toujours des pesanteurs du fameux gouvernement parallèle? Voilà des choses. Je disais tout à l'heure que je mesurais bien l'importance des études qu'il a faites, de l'expérience qu'il traîne sur lui, mais l'environnement, est-ce que le président Kabila, qui cherchait autrefois 15 personnes, on peut dire que Matata, c'est une des personnalités qu'il vient de trouver, et les autres sont où? Ils sont pas nombreux, ces gens-là, qui peuvent aider ce pays à redécoller. C'est vrai que beaucoup commencent par un, je peux dire que M. Matata peut faire quelque chose, mais l'environnement, dans quel environnement il va opérer? Un environnement où aujourd'hui le traitement des dossiers est conditionné par de commissions, des actions retour. Et dans un environnement où, lorsque vous attrapez, on attrape des gens qui sont dans des dossiers assez louches, assez mafieux, ils vont en prison mais ils en sortent et ils se promènent dans les rues de Kinshasa sans être inquiétés, dans les rues de la République sans être inquiétés. Dans quel pays où on va faire ça? Moi, j'ai dit aujourd'hui que l'inaction des institutions, aujourd'hui l'absence de contrôle. Par exemple, vous avez des assemblées provinciales qui ne fonctionnent pas, mais on paye, on exige de l'argent pour payer. Vous avez des gouvernements provinciaux qu'on ne sent pas. Tout ça autour des différents gouverneurs. Vous avez la plupart des entreprises aujourd'hui devenues moribondes. Des entreprises du portefeuille de l'État. Mais on continue à nommer, on continue à faire ceci. Monsieur Matata Mponyo arrive à un moment où il faut une cure d'amaigrissement du train de vie des institutions, du train de vie de ceux qui dirigent. Est-ce qu'il en a le moyen politique pour imposer cette cure? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Matata, qui tient à réduire, par exemple, les revenus même du côté de ceux qui sont au Parlement là-bas, est-ce qu'il va réussir? Il peut réussir tout cela. La révolution de la modernité, mon ami à ma droite, me l'a dit ici au studio. J'ai dit tout simplement qu'il ne faut pas multiplier des concepts. Il ne faut pas multiplier des mots sans qu'il y ait un contenu. Pour moi, un seul acte vaut mieux que 1000 concepts en l'air. Merci. Nous ne voulons pas aujourd'hui continuer à prêcher ici révolution, révolution, sans voir les révolutionnaires. Quelle est cette révolution dont vous n'avez pas les animateurs visibles en train de prêcher cette révolution?
Merci Jean-Baptiste Badera. Comment vous entrevoyez l'action de Matata Mponyo au vu de ce contexte complexe dans lequel il vient d'être nommé?
C'est dans des conditions vraiment un contexte, comme vous venez de le dire, très très difficile, très complexe, dans la mesure où on peut bien être technocrate, on peut être connaisseur, mais tout cela dépend du système dans lequel on évolue. Et là, me fait craindre quand on sait que souvent, les prérogatives du Premier ministre sont rongées et sont souvent affaiblies. On l'a vu durant toute la dernière législature. Je me rappelle en 2006, quand Antoine Gizenga a été nommé Premier ministre, dans son discours devant les députés nationaux, il avait dit que son gouvernement c'est comme un jardin botanique et que la pluie qui tombe aussi, les gros arbres va également tomber sur les petits arbres. Et donc là, il voulait dire que ce qui aura comme intérêt va bénéficier à tous les peuples congolais. Et durant cette même législature, on a eu le point d'achèvement avec ce qu'il y avait comme espoir, mais 5 ans après, on n'a rien vu. Et donc, je ne vais pas trop préjuger le nouveau Premier ministre, hein, mais j'ai peur, vu de ce que je ne sens même pas qu'il est pressé par rapport à ses nouvelles fonctions déjà. Alors que, il faut noter du mal que c'est après 4 mois, un peu plus de 4 mois qu'on vient d'avoir un premier ministre. C'est comme si les Congolais ne sont pas pressés. Ils peuvent attendre pendant que la vie est en train de dégrader de jour en jour. Et donc, on n'est pas pressé. Et moi, je pense qu'il faudra, ne pas trop de préjugés. Il faut attendre. Mais, en tout cas, au vu de ce qu'on vit dans ce pays, il y a lieu d'être pessimiste. J'ai vu pendant cette législature des routes, des maisons détruites. Par exemple, Bukavu ou Uvira. Jusqu'à la RNC, j'ai vu deux ministres venir inaugurer les travaux de route Uvira jusqu'à Baraka dans les territoires de filles du RNC. Donc, on l'a fait tambour battant. Je ne sais pas accorder un certain de chance au nouveau premier ministre, mais avec ce qu'il y a comme réserve, que ce soit au niveau de la majorité, que ce soit au niveau de l'opposition, je pense qu'il faut lui laisser un délai de grâce, même si on ne sent pas qu'il est trop pressé par rapport à ce qu'il attend.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir, levée de la grève des médecins du secteur public en République démocratique du Congo. Après 2 semaines de grève décrétée par les syndicats des médecins du Congo dans les hôpitaux publics, les blouses blanches ont de nouveau repris ce jeudi avec les services. C'est là après l'annonce mercredi soir de la suspension de ces mouvements par le secrétaire général Tissine Ahmed. C'est une décision que le secrétaire général de ces syndicats dit avoir prise pour faciliter les négociations en cours avec le gouvernement afin d'améliorer les conditions des médecins. Écoutons à ce sujet le secrétaire exécutif du SINAMED, Dr Mankoi Badjoki, qui répond au micro de Dona Madimba.
Après l'évaluation par le bureau exécutif national du syndicat national de médecins du mouvement de grève observé par les médecins des services publics de l'État depuis le 2 avril, tenant compte des avancées significatives dans les négociations et en vue de créer un bon climat et la sérénité dans le déroulement des négociations et surtout pour restaurer la paix sociale. Le bureau exécutif national du syndicat national de médecins demande à tous les médecins de services publics de l'État de reprendre normalement le travail dès ce jeudi 19 avril 2012 à 8h. Nous faisons confiance au gouvernement, mais depuis 2008, nous n'avions fait que ça.
Notez que cette grève des médecins du secteur public a duré 2 semaines. Ils réclament, entre autres, au gouvernement l'augmentation de leurs salaires et des nominations tenant désormais compte des nomenclatures légales. Un accord sur les salaires a déjà été trouvé entre les deux parties. Et à ce stade, seule la signature par les gouvernements du protocole d'accord qui s'y rapporte reste à venir. Marcel Ngoyi, vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Grève des médecins avec beaucoup de rebondissements. D'abord, les médecins décrètent cette grève tout en maintenant un service minimum. Une semaine après, ils radicalisent la grève et tout de suite après, le gouvernement menace de supprimer la prime aux médecins qui ne prestent pas. Et 2 jours après, les médecins annoncent la levée de cette grève. Comment vous analysez cette situation?
Non, le gouvernement menace de bloquer la prime des risques. Et le gouvernement, par la voix du Premier ministre intérimaire, Louis-Alphonse Koyagalo, le gouvernement initie l'audit, demande au ministre des Finances sortant, devenu Premier ministre aujourd'hui, et au ministre du Budget, Jean-Baptiste Ntaon, d'initier conjointement l'audit de cette commission, du décaissement de ce qu'on appelle la prime des risques. Alors, c'est dans cette circonstance que les médecins comprennent l'importance de la démarche gouvernementale. En fait, le vrai problème au pays, je ne voudrais pas m'attarder seulement sur le médecin, parce qu'au moment où je vous parle, il y a une menace de grève. Dans les milieux, par exemple, de l'enseignement, j'ai appris que les assistants se préparent. L'autre fois, j'ai appris qu'après le médecin, c'est le personnel paramédical qui va aussi menacer d'aller en grève. Pourquoi il y a grève par-ci, par-là? C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un problème de politique, de gestion du personnel, de gestion au niveau des fonctionnaires de l'État. Il y aura comme ça des groupuscules qui vont se soulever. Pourquoi? Mais nous évoluons dans un environnement où il n'y a pas de budget. Le budget de l'État n'existe pas pour l'année 2012. On évolue avec ce qu'on appelle les crédits provisoires. Mais les crédits provisoires, la reconduction normale du point de vue constitutionnel, c'est 3 mois. Ça s'est arrêté pratiquement jusqu'au 31 mars. Aujourd'hui, nous sommes en avril, on va faire une sorte de reconduction encore. toujours des crédits provisoires. Donc, nous n'avons pas d'enveloppe à louer à tel ou tel autre secteur. Et comme ça, c'est ce que Louis Koyagalo disait, pourquoi les médecins, il y a la bonne foi du gouvernement qui est trahi, comment les médecins qui comprennent que nous n'avons pas de budget et que nous sommes un gouvernement intérimaire, et comment nous, on va nous exiger de payer, il faut attendre la mise en place. Voilà les vrais problèmes. Nous évoluons sans gouvernement, nous sommes dans le régime des intérimaires, tout est provisoire, c'est le régime du provisoire.
Il n'y a pas de budget.
Avec ça, il n'y a pas de budget. Vous allez résoudre quel problème structurel? Vous allez commencer à agir de façon événementielle. Grève à gauche, on agit. Grève à droite, on agit. Donc, l'action du gouvernement devient une action conjoncturelle et événementielle.
Benoît Gaméré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Les médecins n'ont-ils pas été trop exigeants? Car sur les quatre points de leurs revendications, trois ont été satisfaits. Ils se sont convenus sur la prime des 1000 dollars. C'est vrai qu'ils doivent attendre l'exécution du budget 2012. Ils ont reçu l'exonération de leurs 815 véhicules et puis le processus de mécanisation est en cours et déjà 500 médecins sont mécanisés à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas été trop exigeants, les médecins.
Mais non, Guy, ce n'est pas une action qui a commencé aujourd'hui. Et là, j'ai écouté tout à l'heure le commentaire que tu as fait et même que Kelly a fait avant l'émission. Vous parlez de lever de la grève. Non. Le docteur Mankoy est clair et ils ont toujours insisté sur ça. Ils suspendent la grève pour pouvoir continuer à dialoguer, à discuter dans la sérénité. Et c'est ça qu'ils disent depuis 2008. C'est tout ce qu'ils exigent.
Mais ils n'ont pas été trop exigeants.
Non.
Parce qu'on a solutionné certains problèmes.
Non.
Ils ont l'exonération de leurs 815 véhicules.
Mais en fait...
L'exoma a accepté de leur accorder cette prime de 1000 dollars. À partir du moment où le budget sera exécuté,
Guy,
voilà, il y a même les médecins qui sont à l'intérieur du pays qui sont en train d'être mécanisés, les 500 médecins.
Est-ce qu'il y a 500 médecins dans ce pays?
Mais on commence par 500 et on va évoluer.
Okay.
C'est le premier palier.
Est-ce que le problème commence aujourd'hui? Ce n'est pas parce que les médecins entrent en grève qu'il faut solutionner vite quelques petits problèmes pour pouvoir avancer. Marcel vient de le dire. Est-ce qu'il faut attendre que chaque corporation grève pour qu'on s'occupe de cette corporation? Quelque part, quelque chose ne va pas dans ce pays. Quand les paramédicaux vont, on va dire, non, on exonère 800 véhicules. Est-ce qu'il faut chaque fois exonérer le véhicule? Donner un bon salaire à quelqu'un, il ne va pas vous demander de lui acheter un véhicule. Ailleurs, quelqu'un a un bon salaire, il se présente chez un concessionnaire, il montre sa fiche de paye, on lui remet un véhicule et il paye chaque mois. C'est comme ça qu'un pays sérieux marche. Ce n'est pas que chaque fois qu'il y a un problème, on solutionne. Vous vous rappelez que devant ce micro, la semaine dernière, tout ce qui avait été dit quand Mouzito a fait suspendre la grève l'année passée et les mécanisations. On a parlé du 1er janvier de cette année. On est au mois d'avril. Qu'est-ce qui a été fait? Il a fallu que les médecins entrent en grève pour qu'on commence à solutionner. Au lieu de trouver des solutions, le gouvernement cherche à diviser les médecins en prenant des faux médecins qui font dire qu'il n'y a pas de grève, des médecins qui ont été radiés de l'ordre de médecins.
Qu'est-ce que vous dites que c'est le gouvernement qui a manipulé ces médecins?
Cher ami, bon, disons qu'ils n'ont pas été manipulés, ces faux médecins, pour raconter des histoires. La grève a été levée par ceux qui sont en train de négocier avec le gouvernement. Et c'est le syndicat national des médecins. Quelqu'un, on a un pluralisme syndical dans ce pays. Vous ne faites pas partie du SINAMED. Vous êtes un médecin radié. En quoi le monde du SINAMED vous concerne?
Merci Jean-Baptiste Badera, vous êtes directeur de Canal Futur Télévision Sud Kivu. Comment se présente la situation à Bukavu? Est-ce que les médecins ont repris les services?
Bon, c'est un peu timidement qu'on assiste à cette reprise, mais il faut dire que beaucoup de Congolais, beaucoup de Bukaviens qu'on rencontre dans les rues sont soulagés par le fait qu'il y a ce compromis qui est en train d'être trouvé entre les différents syndicats des médecins et le gouvernement. Parce que déjà la situation est très difficile, comme on l'a décrit dans la première partie de cette émission, mais il faut comprendre que heureusement que cela est arrivé, que les choses sont en train de se décanter, et comme l'ont dit mes deux confrères qui sont dans les studios, il y a d'autres secteurs qui menacent de briller, notamment dans la fonction publique, quand on écoute ce qu'ils disent par-ci, par-là, et d'autres secteurs, vraiment comme les paramédicaux, comme l'a dit Marcel Ngoy. Et donc, heureusement qu'on n'en est pas arrivé là, mais sinon, personnellement, j'avais déjà peur de la lettre que je pourrais qualifier des provocations du premier ministre intérimaire qu'on avait dans les sphères médias et qui voulait créer des problèmes pour des gens, parce que là, c'était pour purement, à mon avis, une provocation pour les médecins, car elle a dit que non, il fallait qu'on revoie, par exemple, les différents listings, il fallait qu'on puisse revoir pratiquement tous les contrats qui unaient les médecins à l'État congolais. Supposons que les médecins pouvaient continuer avec cette grève et qu'ils pouvaient aussi durcir le temps. Voyez que cela pourrait coûter dans la vie des sociétés des populations congolaises, parce que elles sont trop pauvres, il n'y a pas suffisamment de moyens. Donc, moi je pense que vraiment cela a été évité, parce qu'on n'a plus besoin de pareils discours, on a besoin des discours qui rassurent, des promesses qui sont tenues. Cela va aider le chef de l'État à réussir toutes ses promesses, à réussir ce qu'il y a comme ambition pour le Congo prospère et un Congo qui se développe chaque jour.
Marcel Ngoyi, c'est vrai que les médecins ont le droit de revendiquer, mais s'il faut vous mettre à la place du gouvernement qui a comme mission de défendre ses patients qui sont la première victime de la grève des médecins, comment vous réagirez si vous étiez à la place du gouvernement?
Mais le gouvernement ne doit pas être un gouvernement qui gère le pays avec de larmes aux yeux. Le gouvernement, c'est ce pouvoir, c'est l'impérium, c'est l'exécutif national qui doit anticiper. C'est la politique d'anticipation. Début de l'année, voici ce que nous allons faire, nous, gouvernement. On discute au Parlement, vous avez la loi financière, vous l'exécutez, ainsi de suite. Donc ici, il y a un problème. Même quand on a institué ce qu'on appelle la chaîne de la dépense, les dépenses sortent de la chaîne. Voilà le vrai problème. Les bornes qui sont tracées sont débornées. Au jour d'aujourd'hui, même quand il y a la volonté, regardez, à un moment donné, on a dit, Yann Divé a dit qu'il devait attribuer la bourse aux étudiants. Yann Divé, c'est Gizeng Antoine.
Voilà.
Oui, le patriarche. Il avait dit qu'il devait payer la bourse aux étudiants. Est-ce que ça a continué? On avait dit qu'on devait payer la subvention à la presse. Est-ce qu'on a payé cette subvention? Toute une législature est passée. Merci. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut juger ces autorités à la caisse. L'actuel premier ministre qui vient d'arriver, on dit qu'il a des entrées dans le milieu de la haute finance internationale. Nous voulons qu'il puisse se mettre au travail. Nous allons prier pour lui. Je vais demander à tous les journalistes, à toute personne de bonne volonté, de se mettre à genoux, compris pour que ce pays se redresse. Nous allons les pousser, l'aider à travailler. Même si peut-être les crocs en jambes peuvent être là, moi mon problème, c'est que les crocs en jambes sont nombreux.
Merci. Mais donc, Améré, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État?
Ce sera le premier test du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le premier test, ce sera d'abord la formation de son gouvernement. J'allais dire du gouvernement. Parce que si c'était son gouvernement, on verra d'abord les hommes qu'il va mettre dedans.
Il est le formateur de ce gouvernement.
Il est formateur.
Et conformément à la constitution, c'est son gouvernement.
Tout à fait. Antoine Gizenga a formé son gouvernement. On sait qui gérait son gouvernement.
Voilà, c'est qu'il faut faire améliorer les conditions socio-professionnelles des agents de l'État, des fonctionnaires.
Prendre les taureaux par les cornes, mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut, et pas prendre des gens qu'on va lui imposer pour que les choses se passent comme elles se sont passées avec les autres premiers ministres. Nous lui souhaitons tout simplement la bonne chance. Premier test, son gouvernement. Deuxième test, qu'il prenne le social des médecins. On va voir comment il va le résoudre.
Merci, c'est la fin de cette émission. Guy Manzango était à la technique et Alain Hirung à la réalisation, assisté de Kelling Kouté, sous la supervision de Ben Kabamba. Devant ses micros, Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.